Bien, nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais examiné des cas de transfiguration in situ de cultures vivrières en Asie du Sud-Est, des essarts de riz et des rizières inondées. J'avais montré que les essarts de riz, les essarts de riz des collines, de Padis, des populations montagnardes ou proto-montagnardes, sont souvent aménagés comme des sites qui doivent accueillir, séduire, maintenir l'âme du riz dans un lieu. Et c'est une idée dont on trouve un probable écho dans les jardins d'agrément japonais et chinois. Tant dans les essarts de riz que dans les jardins d'agrément, en effet, il s'agit d'édifier un paysage plaisant afin de favoriser les déplacements et le séjour d'un flux, d'un principe vital dont la préservation est cruciale. Les rizières des Isan du nord-est de la Thaïlande représentent un cas différent de transfiguration in situ que j'avais examiné également, puisqu'elles reproduisent en miniature l'ordre villageois. Donc il s'agit de rendre visible une institution humaine par la transposition iconique à une autre échelle dans le monde végétal. Je vais à présent, c'est-à-dire dans cette leçon ou dans la suivante, m'intéresser à une autre forme de transfiguration in situ qui diffère des précédentes sur deux points. D'une part, l'échelle, puisque c'est l'ensemble d'un territoire qui devient un signe iconique et non plus seulement des terres de culture. D'autre part, l'agent, puisque ce ne sont plus des humains qui ont aménagé ce paysage, mais des non-humains. Nous allons donc nous transporter de l'Asie du Sud-Est vers les Andes. Je vous donne la bibliographie des textes que je vais principalement utiliser aujourd'hui. Je les mettrai sur le site dans quelques temps. J'y reviendrai éventuellement en cas de besoin aujourd'hui. Alors, un trait général des populations indigènes des Andes, qui a été maintes fois souligné par les ethnologues, est une propension à conceptualiser leur environnement à partir d'images et de schèmes conceptuels issus de l'anatomie, et de la physiologie des organismes, et notamment des organismes humains. Cette orientation organiciste de la lecture et de l'interprétation des traits du relief n'est évidemment pas propre aux Andes, on en a vu un exemple lors du cours précédent, mais elle prend dans les Andes une dimension toute particulière du fait de l'imagerie hydraulique qui est simultanément employée pour décrire la circulation des flux dans les organismes et dans les écosystèmes, en l'occurrence dans l'écosystème montagnard. Je prendrai un exemple qui a été particulièrement bien décrit par un ethnologue nord-américain, Joseph Bastian. Ses travaux sont cités ici. Je me servirai surtout, enfin beaucoup dans un premier temps, du premier article, « Mountain Body Metaphor in the Andes ». Son étude porte sur un groupe d'Indiens, Koyawaya, qui vivent sur les flancs d'une montagne qui s'appelle le mont Kaata, en Bolivie. Les Koyawaya sont connus dans la littérature ethnologique et aussi dans les Andes, depuis la Bolivie jusqu'à l'Équateur, parce que ce sont des devins et des guérisseurs itinérants, réputés pour leur connaissance de la pharmacopée, des simples, mais aussi pour leur grand savoir cosmologique. Ceux du mont Kaata, qu'a étudié Bastian, conçoivent leur territoire comme un Ailu. Un Ailu, c'est un groupe de filiation caractéristique du monde andin, qui réunit, qui est autonome et qui est distribué, dans le cas présent, en trois zones écologiques échelonnées sur les pentes de cette montagne Kaata. Et chaque groupe de communautés à chaque étage écologique est séparé des autres par des rivières. Au pied de la montagne, à une altitude d'un peu plus de 3000 mètres, se situe l'ensemble qu'on appelle Niño Corín, c'est-à-dire le fils du bas, qui est composé de 5 hameaux qui cultivent maïs, orge, avoine, pois et haricots. Au-dessus, à une altitude qui oscille entre 3800 et 4500 mètres, se situe la partie centrale et la plus importante de la communauté, centrée autour du village de Kaata, qui porte le même nom donc que la montagne, où sont cultivées des pommes de terre, l'orge et l'oca, qui est une tubercule andine. Enfin, la frange altitudinale la plus élevée, entre 4500 et 5000 mètres, répond au nom de Apacheta, et elle est peuplée de pasteurs qui élèvent des camélidés andins, c'est-à-dire des alpacas, des lamas, mais aussi des moutons, dans une zone qu'on appelle la Puna, dans toute cette région des Andes, et où pousse à peu près exclusivement une espèce de fétuque rustique. Les gens de Niño Corín, c'est-à-dire tout en bas, et de Kaata à l'étage intermédiaire, parlent quechua, tandis que ceux d'Apacheta, donc la zone la plus élevée, parlent aymara. Et pourtant, en dépit de ces différences linguistiques, en dépit de la distance qui sépare les communautés du haut et les communautés du bas, tous les habitants de cet Ailu se considèrent comme des parties intégrantes d'un même ensemble. Alors ça tient d'abord à ce type particulier d'organisation territoriale que le grand ethnologue et archéologue andiniste, ethno-historien andiniste John Moura a appelé l'archipel vertical. L'archipel vertical caractérise, depuis bien avant les Incas, la complémentarité des étages écologiques dans les communautés andines. En effet, que ce soit dans les chefferies pré-incaïques, chez les Incas et dans les communautés contemporaines, le système de l'archipel vertical est fondé sur la coopération et les échanges de produits alimentaires et de services entre des établissements humains qui sont situés à trois niveaux altitudinaux, pardon, et qui sont généralement dépendants ou définis par la communauté située à l'étage intermédiaire. Dans le cas de l'Ailu de Kaata, la complémentarité entre les étages écologiques est notamment assurée par le système de filiation et de mariage. La filiation est patrilinéaire et la résidence virilocale, c'est-à-dire que les hommes accèdent à la terre, se marient et résident là où ils sont nés, tandis que les femmes viennent des étages écologiques adjacents. Mais les femmes peuvent aussi hériter d'un accès à la terre dans les communautés où elles sont nées, de sorte que chaque famille a de fait des droits d'usage de la terre à chacun des étages écologiques. Donc voilà le... On voit mal sur mon écran, voilà. Donc voilà le mont Kaata. On voit au premier plan donc, le système classique de champs en terrasse, hein, et on les voit aussi de l'autre côté, bien sûr. Ça, c'est un mot caractéristique, la partie supérieure de l'étage intermédiaire. Toutefois, ce qui unifie véritablement toutes les communautés et tous les membres de cette Ailu Kaata, c'est l'idée que la montagne, sur les flancs de laquelle ils sont installés et distribués, cette montagne est un corps immense dont ils sont eux-mêmes des parties. Je voudrais souligner à nouveau que cette idée est commune dans les Andes. L'Empire Inca lui-même, le Tahuantinsuyu, était conçu ainsi. Par exemple, Garcilaso de la Vega, dans ses Comentarios Reales, qui est l'une des sources sur la connaissance des Incas, écrit « Le centre du Tahuantinsuyu était Cusco, ce qui, dans la langue du Pérou, signifie le nombril du monde. Ce nom était bien choisi, dans la mesure où le Pérou est long et étroit comme le corps humain, et Cusco était situé au milieu de son ventre. » Et Garcilaso de la Vega, qui est un descendant par sa mère du lignage des souverains incas, rajoute, je le cite, « Les habitants du Haut Cusco devaient être considérés comme les aînés et ceux du Bas Cusco comme les cadets. En effet, il en allait comme avec un corps vivant dans lequel il existe toujours une différence entre la main droite et la main gauche. Toutes les villes et les bourgades de notre empire furent en conséquence divisées en lignages majeurs et lignages mineurs, ainsi qu'en districts majeurs et districts mineurs. » Alors, regardons ce que ça donne pour le corps du mont Caata. Comme Cusco pour le Tahuantinsuyu, pour l'Empire Inca, c'est le district intermédiaire de Caata qui constitue les viscères du corps montagne. C'est de là que le corps tire sa force vitale, car selon la théorie andine du corps, ce sont les viscères qui produisent le gras, et c'est le gras qui donne la force à l'organisme. À cet étage écologique, donc à l'étage intermédiaire, sont produits des tubercules, je l'ai dit tout à l'heure, pommes de terre et oca, qui croissent dans la terre, tout comme les viscères donnent de la vitalité aux humains. Les hameaux de ce niveau sont reliés les uns aux autres comme des organes. Le plus ancien de ces hameaux, il s'appelle Caatapata, forme le foie, et c'est là qu'est situé le principal centre rituel de tout l'Ailu. L'emplacement centrale de Caata sur la montagne qualifie ses habitants comme les principaux spécialistes rituels du corps de l'Ailu et même de toute l'ère Kolawaya. De ce fait, ils sont les mieux à même de faire circuler la graisse et le sang, car ils vivent là où les organes de la montagne produisent ces substances génératrices de vie et de puissance. En partant de cet étage intermédiaire vers le haut, donc l'étage intermédiaire, c'est ici, c'est le village de Caata, avec le ventre, en remontant vers le haut, donc on remonte vers la tête, ici, donc l'œil gauche, l'œil droit et la bouche. La pente s'accentue quand on remonte à partir d'ici vers le haut et forme la poitrine de la montagne, Cuiré, dont la partie droite est la colline du Mamelon, Nuño Orgo, dont le sommet a la forme d'un téton. Les terres les plus hautes forment la tête, Uma, et les buissons de Fétuc poussent près du sommet de la montagne, comme des cheveux sur la tête. Et les lamas qui paissent dans ces herbages ont une laine qui ressemble à des cheveux humains et qui repoussent après qu'on les coupé, comme l'herbe et comme les cheveux. Les lacs, les deux lacs en haut, d'Apacheta, donc la partie supérieure de la tête, sont les yeux de ce corps montagneux et de leurs reflets proviennent toutes les créatures vivantes qui émergent ainsi des entrailles de la terre en traversant cette tranquille surface en miroir. De même que la tête est le point d'entrée et de sortie de l'intériorité humaine, les animaux et les humains proviennent d'eux et retournent à la tête de la montagne. On dit en effet que les morts voyagent par des canaux souterrains depuis le pied jusqu'à la tête de la montagne, d'où ils émergent par les yeux afin de débuter un nouveau cycle vital qui les conduira au cours de leur existence à redescendre des flancs de la montagne Kaata pour être enterrés à ses pieds. Les habitants de l'étage supérieur, de l'étage d'Apacheta, près du sommet, donc, sont ainsi prédestinés, officiés comme les spécialistes rituels des lacs et des morts. Ce sont eux en particulier qui alimentent les défunts et les lacs en déposant dans les lacs des fœtus de lama. La disposition même de l'habitat à Apacheta évoque en tout point un visage, le hameau de Djaweka et la chevelure, le hameau de Uyuni et l'œil droit, tandis que le hameau de Saktalaya et l'œil gauche, chacun étant à proximité d'un grand lac. Enfin, Waira Wiskwani, la porte du vent, c'est une cavité de laquelle sort un souffle d'air et réputé être la bouche. Alors, deux rivières coulent depuis le sommet, le Chari et le Kuno Chayu, qui forment les avant-bras, maki, de la montagne. Quant aux champs de céréales de la partie la plus basse, ce sont les jambes, chaki, et les indentations sur la berge de la rivière sont les orteils, silou. Les champs forment des bandes longues et étroites qui descendent en parallèle des rivières. La jambe gauche est le site du hameau de Ninyokorin, qu'on a vu en bas, là, ici, et la jambe droite du hameau de Kiyabaya, ici. Les champs du bas produisent surtout du maïs, qui sert à faire la chicha, qui est donc la principale, la bière de maïs, qui est la boisson au moyen de laquelle on fait dans les Andes toutes les libations rituelles. Et de la sorte, les gens de Ninyokorin s'occupent non seulement de la culture du maïs matériellement, mais aussi des rites du maïs destinés à obtenir des récoltes abondantes au profit de l'ensemble des habitants de la montagne. Donc l'analogie entre le mont Kaata, ceux qui occupent ses flancs, et le corps humain se déploie à de multiples niveaux, analogie de forme, analogie de fonction, analogie de situation, analogie renforcée par l'usage de termes qui peuvent s'appliquer indifféremment aux humains et aux non-humains. Je reviendrai sur ce point qui est très important plus tard, et qui joue en outre parfois sur l'homophonie entre le Quichua et, ou le Quechua et l'Aymara. Uma, par exemple, signifie tête en Quechua et O en Aymara. Cette obsession des correspondances entre des sites, des formes, des usages et des propensions qui est caractéristique de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes offre évidemment un terreau fertile pour la ou les transfigurations paysagères. On ne doit pourtant pas se borner à interpréter ces correspondances comme des réseaux de métaphores, ainsi que le fait par exemple Joseph Bastian dans son analyse, c'est-à-dire au fond comme une clé de lecture des lieux qui serait fondée sur des transpositions de symboles. Car évidemment, une telle lecture suppose une prééminence logique du référent sur la chose symbolisée. En ce sens, le corps humain, si l'on suit cette ligne d'interprétation, serait le schème conceptuel, ordonnateur, applicable à de multiples objets, dont les montagnes, On lirait les montagnes et la distribution de leurs éléments à partir du schéma conceptuel du corps humain. Or, tout indique que la transfiguration opère en réalité dans les deux sens et que c'est autant l'écosystème montagnard qui permet de conceptualiser le corps et ses fonctions que l'inverse. Avant de voir cela plus en détail, il faut faire un détour par le statut particulier des montagnes dans les Andes. Comme je l'ai dit il y a un moment, les trois étages altitudinaux, du mont Kata correspondent à la stratification tripartite des étages écologiques, qui est assez commune dans les Andes et qui constitue d'ailleurs un motif iconographique que l'on retrouve dès la civilisation de Tiwanaku, qui a étendu son influence sur le sud des Andes centrales avant les Incas, dans la deuxième moitié du premier millénaire après Jésus-Christ. On trouve ici un bon exemple, c'est un site tout à fait classique, c'est la Porte du Soleil à Tiwanaku, et le motif qui m'intéresse, c'est celui-là. Et si on le regarde plus en détail, on s'aperçoit que cette figure est installée sur quelque chose qui, en réalité, est, semble-t-il, une montagne sacrée. En tout cas, c'est l'interprétation que propose Scott Smith de ce motif, qui est tout à fait une interprétation convaincante. Et le motif est très ancien, puisqu'on le trouve ailleurs. On le trouve, par exemple, dans les textiles de Nazca, comme d'ailleurs dans les textiles contemporains. On en a ici un exemple avec les trois étages. Or, ce motif de l'escalier, si vous voulez, met sur la piste d'une caractéristique de l'architecture sacrée andine, sur laquelle les spécialistes ont maintes fois attiré l'attention, à savoir que les temples précolombiens paraissent émuler les montagnes divinisées et les reproduire à une autre échelle. Là aussi, cette tendance paraît très ancienne. Et c'est ainsi, par exemple, que l'on a pu interpréter les restes de la pyramide de la Galgada, qui appartient à la tradition dite Kotosh, qui a fleuri dans les Andes entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une reconstitution, parce qu'elle a été évidemment pas mal abîmée par le temps, mais on voit bien ce système des étagements qui est caractéristique de ces plateformes cérémonielles. Il en va de même pour les plateformes cérémonielles Inca, qu'on appelle Ushnu, qui sont beaucoup plus tardives, évidemment. Je pense en particulier à celle de Vilcachoaman, où l'on voit là aussi très nettement l'étagement à trois étages. Une source plus récente pour l'interprétation des montagnes comme des divinités, plus récente que, bien sûr, ces restes archéologiques, c'est le fameux manuscrit de Warachiri, qui a été rédigé en Quichua au début du XVIIe siècle et qui représente un témoignage tout à fait exceptionnel sur les croyances et les rites dans les Andes centrales de l'époque, dans la région de Warachiri précisément. Le manuscrit met en évidence que les montagnes étaient vues comme des wakas par les gens de la région de Warachiri, donc Pérou central, et probablement dans toute la région andine. Le terme waka, c'est un terme qui définit à la fois un objet matériel ou un site qui reçoit un traitement rituel, en même temps que la force qui réside dans cet objet ou dans ce site. Il en existe de très nombreuses sortes, de Waka, depuis celles qui marquent des sites qui témoignent d'un événement mythique, qui sont des lieux de médiation avec les divinités, des espaces liminaires, donc on échange avec les divinités, jusqu'à celles qui symbolisent l'identité propre d'un groupe. Les plus communes des Waka sont des rochers avec une forme particulière, qui sont souvent singularisés par un dispositif de cadrage assez simple, généralement un muret ou une banquette de pierre. Voilà un exemple très connu qui est le rocher du Puma à Kenko, qui est donc une waka tout à fait classique. Ce dispositif de cadrage, qui est commun dans l'architecture inca, et sur lequel je reviendrai plus longuement d'ailleurs dans une autre leçon, car il me paraît témoigner à l'évidence d'une volonté d'encadrement d'une vue, de volonté de contraindre le regard sur un spectacle, et me paraît donc témoigner de ce fait d'une intention paysagère qui se situerait à mi-chemin entre la transfiguration in visu et la transfiguration in situ. Je n'en prendrai ici qu'un exemple en dehors de celui-ci, qui est très connu puisque c'est la fameuse roche sacrée de Machu Picchu, qui, à première vue, donc, c'est un énorme rocher naturel, mais il a lui aussi été entouré par une banquette de pierre qui le délimite avec précision, et on l'a subtilement manipulé de façon à ce que sa forme imite celle de la montagne à l'arrière-plan, la montagne qui s'appelle Yanantin et qui est une divinité dans la tradition quechua. Donc, le rocher, cette waka, si vous voulez, redouble la montagne qui est en arrière-plan et la redouble en miniature. Alors, on n'a aucune information sur l'usage rituel, éventuel, de ce rocher, mais il est tentant d'y voir comme un écho de la montagne sacrée à l'intérieur de l'enceinte impériale, c'est-à-dire qu'on amène la montagne par une reproduction en miniature à l'intérieur de l'enceinte impériale de Machu Picchu, donc une waka disponible à l'échelle humaine, et qui entre en résonance avec une waka plus distante, qui est la montagne de l'arrière-plan, qui est elle aussi une divinité. Ici aussi, il paraît bien y avoir un double mouvement de transfiguration, in visu avec la montagne en arrière-plan qui est divinisée, et in situ avec la montagne miniature que les humains ont érigée pour qu'elle entre en résonance avec la première. Comme l'écrit fort justement Rebecca Stone Miller dans son livre Art of the Andes, je la cite, les Incas avaient le sentiment spécial d'une interchangeabilité avec les pierres qu'ils croyaient vivantes et capables de se transformer en humains et vice-versa. De ce fait, les constructions en pierre des Incas paraissent vivantes en ce qu'elles répondent de façon dynamique au relief naturel, créant des surfaces actives et denses dans la forte luminosité solaire des hautes altitudes. Une des caractéristiques de cette architecture sacrée imitant les montagnes, c'est, on l'a vu, qu'elle est souvent stratifiée avec un minimum de 3 étages. Or, cette stratification, elle correspond à une hiérarchie minutieuse des personnes, des lignées, des sites, des villages, des époques, qui est tout à fait caractéristique du système andin et plus généralement de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes. On en trouve évidemment une trace dans l'habitude de tout diviser entre majeur et mineur, aînés et cadets, hauts et bas, mais qui s'exprime encore mieux avec la stratification montagnarde et la possibilité qu'elle offre d'échelonner une multitude de différences le long d'une échelle de discontinuité qui donne, du fait de la transition insensible d'un étage altitudinal à un autre, toutes les apparences du continu. Donc la montagne est un dispositif matériel qui est très intéressant pour donner l'illusion du continu dans une chaîne de discontinuité. Et de ce fait, le grand principe intégrateur de la hiérarchie, qui dans les ontologies analogistes et tout particulièrement dans les Andes est absolument central, ce grand principe intégrateur de la hiérarchie se voit partout clairement énoncé et ostensiblement visible sur les flancs des montagnes et dans les étagements de l'architecture sacrée qui fait écho à cet étagement. Le fait que beaucoup de montagnes andines soient vues comme des divinités incarnées contribue aussi évidemment grandement à renforcer l'analogie entre la montagne et le corps humain. De nombreuses illustrations dans la Coronica y Buen Gobierno de Huaman Poma de Ayala, autre source fondamentale sur les Incas, montrent des Incas agenouillés dans une attitude de supplique devant des montagnes. Alors, celle-là est très connue. Elle montre des Incas, c'est-à-dire des membres du lignage impérial, agenouillés devant la montagne d'où sont sortis les premiers Incas, qu'on appelle Tambotoco, la montagne aux embrasures, la montagne aux ouvertures. Vous voyez, c'est ça. Des documents ethno-historiques attestent que d'autres groupes ethniques vénéraient aussi des montagnes ou des constructions qui ressemblaient à des montagnes ou qui étaient faites de façon à ressembler à des montagnes. Garcilaso de la Vega, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'il rapporte la conquête par les Incas de la région du lac Titicaca, écrit que les habitants de Cacquiahuili, je le cite, se rassemblèrent sur une colline isolée située dans cette ville qui semblait avoir été faite de main d'homme, de moins d'un quart de lieue de haut et ronde comme un pain de sucre, et il l'adorait et lui offrait des sacrifices. Ce thème du sacrifice à la montagne divinisée est déjà présent dans les religions précolombiennes et l'on en possède une iconographie spectaculaire avec les poteries de la culture Moche qui a fleuri sur la côte nord du Pérou pendant les deux premiers tiers du premier millénaire après Jésus-Christ. On voit ici deux exemples. Vous voyez, ça, c'est les pics de la montagne. Ici, il y a une divinité, je reviendrai tout à l'heure dessus. Et là, des personnages avec du sang qui coule qui ont été, semble-t-il, sacrifiés. Deuxième exemplaire, celui-là est au Musée Larco de Lima. Même principe, en plus simple, si on peut dire, avec toujours la même divinité ici et ses personnages répartis entre les pics des montagnes. Donc il existe plusieurs exemples de ce motif qui semble représenter... on est fondé sur des interprétations, puisque vous savez, il n'y a pas de document écrit avant l'arrivée des Espagnols, qui semble représenter un sacrifice humain à une montagne divinisée, sacrifice qui paraît se faire sous l'autorité de ce personnage, qui est une divinité importante de la culture Moche et qu'on appelle visage ridé. Les figures humaines situées entre les pics, vous voyez ici, par exemple, semblent comme avalées par la montagne, et donc, au fond, dévorées par celle-ci. Quoi qu'il en soit de l'interprétation exacte de ces poteries, il demeure qu'elles constituent bien des paysages, et même des paysages au carré, pourrait-on dire, puisque ce sont des transfigurations in visu, c'est-à-dire des représentations iconiques, d'une transfiguration in situ, c'est-à-dire d'une montagne perçue comme une divinité. On peut même trouver dans les Andes des représentations paysagères de montagnes qui sont fondées sur l'émulation par le corps humain d'un pic sacré. Par exemple, Juan de Ulloa Mogollón écrit en 1586 que les gens autour de la ville de Cabanaconde disent être issus d'une montagne qu'ils appellent Hualcahualca et que c'est en révérence à cette montagne qu'ils pratiquent des déformations crâniennes, c'est-à-dire qu'ils appliquent dès l'enfance une planchette sur l'avant du front de façon à déformer le crâne et à le faire adopter la forme d'un pain de sucre, système classique pratiqué même en Europe. L'idée de cette déformation crânienne, c'est que leur tête ressemble à la montagne qu'ils adorent. On voit bien ici que l'analogie entre la montagne et le corps humain est réversible et que c'est autant le corps qui imite la montagne que l'inverse. Du reste, la montagne n'est pas seulement un espace stratifié ou l'incarnation d'une divinité, c'est aussi une source de fertilité et de puissance vitale. Les communautés Aymara d'Isluga, en Bolivie, qualifient aujourd'hui certaines de leurs montagnes de aviador. Aviador, c'est un terme qui est emprunté à l'espagnol du XVIIe siècle et qui signifie pourvoyeur. On trouve d'ailleurs l'équivalent en portugais. À Coulta, sur l'altiplano bolivien, on offre d'ailleurs des libations rituelles à un personnage qui s'appelle Awiyaru, qui est un terme qui est également tiré de l'espagnol aviar, approvisionné. En ce sens, les montagnes sont vues aussi comme une synthèse particulièrement exemplaire de processus écologiques dont le corps est également le théâtre. Macrocosme et microcosme se reflètent donc dans un effet en miroir, et il est bien difficile de dire si c'est le corps qui est le modèle de la montagne ou si c'est la montagne qui rend visible des échanges de flux dont le corps se fait l'écho. Du reste, les Coyahuaya du mont Caata, si bien décrits par Joseph Bastian, ont développé une théorie de la circulation hydraulique au sein de la montagne qui est un exact analogue de leur théorie du fonctionnement physiologique du corps humain. Un informateur de Bastian avait fort bien résumé ce parallélisme des schémas hydrauliques lorsqu'il disait, je le cite, « Je suis comme la montagne, Pachamama. Pachamama a des fluides qui coulent à travers elle et j'ai des fluides qui coulent à travers moi. Pachamama s'occupe de mon corps et je dois donner à manger et à boire à Pachamama. » Selon les Coyahuaya, les trois étages du mont Caata sont reliés par des conduits, tout comme les différentes parties du corps humain. Des rivières, des cours d'eau souterrains, des tunnels connectent toutes les parties de la montagne selon un système cyclique dans lequel les éléments matériels, l'eau, les plantes, la terre, sont dans un processus continu de désintégration et de transformation qui les fait passer de la mort à la vie et de la vie à la mort. Il en va de même pour les humains. Une fois qu'ils sont morts et enterrés, leur fluide s'écoule dans la montagne, jusqu'au lac d'altitude, d'où ils redescendent vers le bas. Et la circulation des fluides dans la montagne est du ressort des spécialistes rituels, tout comme c'est la responsabilité des spécialistes rituels de faciliter la circulation du sang et de la graisse dans le corps humain. De fait, les spécialistes rituels soignent les corps en soignant la montagne. Ils font à la montagne des offrandes de sang, de graisse et de coca, qu'ils disposent dans des autels qui sont chacun associés à la fois à des traits topographiques des trois étages écologiques et à des parties du corps humain. Les autels de la terre de la strate intermédiaire, qui est celle qui correspond au ventre, jouent un rôle important. Comme le dit le spécialiste rituel de ces autels, je le cite, « c'est là que le sang et la graisse doivent être mis en circulation vers le reste de la montagne. C'est ce qui donne vie à Pachamama. » En outre, les mouvements des fluides dans le corps et dans la montagne sont également marqués par un double mouvement centripète et centrifuge. Ceci est notable dans les rituels qui sont accomplis dans les autels de la terre de la strate intermédiaire de la montagne. On y amène des produits animaux et végétaux qui proviennent des autres étages écologiques, de la même façon que dans le corps, le cœur, Sonko, est vu comme un mécanisme d'intégration et de distribution des substances et des fluides. Selon l'école Waya, le Sonko est le lieu dans le corps où l'air, le sang, la nourriture et l'eau se réunissent et sont redistribués sous la forme d'autres fluides, donc principalement la graisse, le sang, la bile, le lait et le sperme, et de substances aussi qui doivent être éliminées, les excréments, l'urine, la sueur. Alors Sonko, habituellement on le traduit par cœur, mais on voit bien que le terme désigne bien plus que cela, c'est une sorte de machine à distiller qui remplit des fonctions de respiration, de dépuration, de circulation et de digestion en alternant mouvement centrifuge et mouvement centripète. L'air, le sang et la graisse sont les principales substances qui animent le corps et qui assurent la connexion du corps avec l'environnement. L'air, par exemple, est vu évidemment comme un fluide nécessaire à la vie des humains, à la vie des animaux, à la vie des plantes, qui les relie tous dans un même milieu et qui peut avoir des effets négatifs lorsqu'il n'est pas contrôlé par le Sonko, lequel Sonko donc concentre l'air, le disperse dans les muscles et cause ainsi le mouvement. L'air incontrôlé, c'est le vent, waira, qui peut provoquer des maladies musculaires et des maladies nerveuses. Le sang et la graisse sont les éléments qui anime vraiment le corps. Le sang, c'est le principe de vie, tandis que la graisse, c'est le principe, en quelque sorte, énergétique. Là aussi, leur circulation est caractérisée par une alternance de mouvements centrifuges et centripètes qui sont mis à profit dans l'action rituelle pour influer sur l'environnement. Par exemple, lors d'un rituel qui est appelé Kalai Shakmai, les spécialistes rituels Koyawaya retirent le cœur encore battant d'un lama et arrosent la terre de son sang dans un mouvement de rotation vers la périphérie de l'Ailu. Donc c'est une opération qui reproduit à l'échelle de la montagne le mouvement centrifuge du sang circulant dans le corps à partir du Sonko, la redistribution du sang vers les extrémités du corps. Les spécialistes rituels découpent aussi la graisse du lama et la déposent dans les autels de la terre. Or, le trajet de la graisse dans le corps humain alterne entre un mouvement centripète et un mouvement centrifuge. Au cœur du sonko, par exemple, la graisse est séparée des aliments par la force du sang, qui vient vers l'intérieur par un mouvement centripète. Puis la graisse est acheminée par le sang à la périphérie du corps dans un mouvement centrifuge. Et le mouvement régulier du sang dans un sens comme dans l'autre est donc indispensable à l'équilibre du corps, et les perturbations dans cette circulation sont pensées en termes écologiques et géologiques. Par exemple, un sang dit faible viendra de ce que un éboulement de terrain interne, on emploie le même terme pour un glissement de terrain, aura abouti à une fusion des conduits et dilué le sang en le mélangeant avec de l'eau. La physiologie hydraulique, qui caractérise également les montagnes et les corps, implique évidemment que les échanges de substances entre les humains et leur environnement soient fondés sur les mêmes principes écologiques, de sorte qu'une partie du travail des guérisseurs consiste à mieux calibrer ces échanges s'ils entraînent des déséquilibres ou s'ils aboutissent à des déséquilibres. Par exemple, les personnes qui ont le sang trop chaud, c'est-à-dire le sang qui circule trop rapidement, et trop humide, c'est-à-dire trop épais, sont d'un tempérament énergique et décidé. Et dans la mesure où les taux de concentration et de dispersion de leur fluide corporel sont très élevés, les échanges entre les organes centraux et leurs membres se font à un degré qui, au fond, n'est pas calibré à des dynamiques similaires dans leur environnement. Et de ce fait, ces personnes indisposent leur entourage humain et leur environnement non humain par des manifestations intempestives de colère, d'agression, de volonté de puissance et un sentiment, une volonté destructrice, si vous voulez. Donc ces échanges entre le corps et l'environnement peuvent aussi être accidentels. Par exemple, une forme de nécrose osseuse infectieuse qui est commune dans les Andes et qu'on nomme chulpa est causée, dit-on, par le fait de creuser près de la tombe d'un ancêtre. La diarrhée des enfants peut être attribuée au fait que leur mère a uriné dans une grotte pendant la nuit. Les maladies vénériennes sont causées par le fait d'uriner sur un feu, etc., etc. Ce genre d'étiologie des maladies, fondée sur des correspondances entre des actions ou des parties du corps et des qualités prêtées à des éléments ou des processus dans l'environnement, est tout à fait caractéristique aussi de ce que j'ai appelé les ontologies analogistes, une excellente illustration en étant en Europe la théorie médicale des signatures. Mais dans ce cas, dans le cas andin, il y a plus qu'une correspondance entre fluide, substance et mécanisme physiologique. Il y a véritablement circulation et échange entre corps organique et inorganique. D'ailleurs, la pharmacopée repose sur ce modèle. Bien que les guérisseurs emploient souvent des plantes dont les molécules actives sont efficaces, le principe de leur action repose surtout sur l'idée que les plantes permettent la circulation des ingrédients entre la terre et le corps. Elles sont efficaces parce qu'elles transmettent aux humains, au fond, les dons thérapeutiques de la Pachamama. Et la méthode la plus commune pour administrer des simples consiste à faire infuser les feuilles ou les racines dans un récipient d'eau chaude. Et la plante est réputée concentrer et diffuser les substances qu'elle aura extraites de la terre. Et l'infusion, évidemment, permet de fixer ces substances et de les diffuser dans le corps du malade. C'est donc une extraction par ce biais des substances de la terre. On a là encore un processus faisant alterner mouvement centripète et mouvement centrifuge. mais qui franchit, au fond, plusieurs barrières ontologiques, puisqu'on passe de la terre à la plante à l'humain. Bref, pour synthétiser, les guérisseurs Koyawaya classent les plantes selon les façons dont elles affectent le flux de fluides primaires et secondaires, éliminent les résidus nocifs et nettoient, au fond, les conduits. Cette physiologie est vue comme un circuit hydraulique au sein duquel circulent les fluides vitaux, l'air, le sang, l'eau, et les produits semi-liquides, la graisse et la nourriture, avec des processus de distillation qui produisent les fluides et les produits semi-liquides secondaires, phlegme, bile, gaz, lait, sperme, sueur, etc., etc., qui doivent être éliminés. Alors, avant d'examiner plus en détail la façon dont les populations andines conçoivent ces circuits hydrauliques du macrocosme, j'y consacrerai toute la leçon de la semaine prochaine, je voudrais dire un mot de la terminologie topographique. Il est commun partout dans le monde que l'on utilise métaphoriquement des éléments du corps humain pour désigner des éléments du relief. Le pied de la montagne, ses flancs, la croupe, le mamelon, une dorsale, une gorge, le bras d'une rivière, son embouchure, etc. Nous n'en sommes pas avares nous-mêmes en français. Le corps fournit en effet un système de référence immédiate de la localisation dans l'espace dont toutes les cultures, partout, ont fait usage. Cet usage purement dénotatif n'implique souvent aucune correspondance délibérée entre la physiologie des organismes et l'environnement. Lorsque nous disons le pied de la montagne, nous ne pensons pas que ce pied, en français en tout cas, va lui servir à se déplacer. En quechua, pourtant, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Le corps est décrit en termes topographiques à partir d'une opposition entre concave et convexe. Et c'est ce qu'a très bien montré une linguiste nord-américaine, Louisa Stark, dans un article qui s'appelle « The Lexical Structure of Quechua Body Parts ». Je ne vais reprendre qu'une partie de son argumentation en prenant l'exemple de quelques termes anatomiques qui désignent des parties de la tête. Alors, on voit ici que les termes nyawi, œil, niri, oreille, sinka, nez, sont de l'exème primaire, c'est-à-dire qu'ils sont indécomposables. Ils sont employés pour former des lexèmes composés qui dénotent des parties de l'organe que le lexème primaire désigne dans son entier. Ainsi, nyawi, œil, donne nyawi kapachu, littéralement œil cap, qui dénote la paupière. Nyawi tuku, qui désigne l'orbite, œil, trou, etc., etc. Et ce système de formation de lexèmes composés fonctionne avec d'autres lexèmes d'autres lexèmes désignant d'autres parties de la tête que je ne mentionne pas ici par économie d'exposition. Or, en interrogeant ces informateurs quechua pour faire une analyse sémantique des lexèmes composés, Stark a obtenu une réponse remarquablement uniforme. Les termes qui qualifient un lexème primaire pour en faire un lexème composé, donc tuku par exemple, ou kapachu pour nyawi, ou tuku et rapra pour sinka, ces termes dénotent tous soit la concavité, soit la convexité. Traduit alors en termes savants, mais les informateurs de Stark employaient simplement les expressions creux ou arrondis. Ainsi qu'on le voit dans le tableau donc, du bas, C'est au-delà, si vous voulez, des trois lexèmes qui sont donnés en exemple dans ce tableau, l'œil, l'oreille et le nez. Ce processus de dérivation à partir des deux propriétés contrastives de la concavité et de la convexité s'applique à sept lexèmes primaires qui dénotent des parties anatomiques et qui donnent donc 14 lexèmes composés caractérisés par le fait qu'ils sont, dans les termes donc des informateurs de Louisa Stark, soit creux, soit arrondis. Alors, gardons pour le moment en mémoire l'importance de l'opposition concave-convexe dans les termes anatomiques. Examinons à présent le recouvrement entre le lexique anatomique et le lexique topographique. La plupart des lexèmes simples du vocabulaire anatomique sont aussi employés pour désigner des éléments topographiques. On en a ici un exemple. Par exemple, conca dénote primitivement le cou, est aussi employé pour désigner un petit ravin. Niawi désigne l'œil et signifie aussi source, etc. Selon Stark, c'est le vocabulaire anatomique qui est ici premier. C'est-à-dire, c'est ainsi en tout cas que l'interprète ses informateurs, et c'est le vocabulaire géographique qui en dérive, ainsi que l'indique, si vous voulez, ses flèches. La seule exception, c'est le dernier, j'y reviendrai dans un moment. Il s'agit donc d'un transfert sémantique qu'on appelle égressif, c'est-à-dire dans lequel le sens est transposé de son domaine initial, qui est le domaine de l'anatomie, au domaine géographique ou topographique. La seule exception, c'est muku, qui désigne le genou, mais dont le sens initial semble bien être colline. Là, ça a l'air assez simple, mais l'affaire se complique dans le cas des lexèmes binomiaux, c'est-à-dire composés de deux termes. En effet, ces lexèmes composés sont beaucoup plus nombreux que les lexèmes simples et sont le plus souvent formés d'un terme anatomique et d'un terme géographique. Quand on traduit dos, ravin, pied, puits, pied, champ, poitrine, puits, etc. Par exemple, conca dénote primitivement le cou et est aussi employé pour désigner un petit ravin. Selon Stark, c'est lexèmes composés qui sont beaucoup plus nombreux que les lexèmes simples montrent que ce qui est premier ici, c'est le vocabulaire géographique. Par exemple, le lexème composé wasa waiku se décompose en wasa do, qui est un terme anatomique, et waiku ravin, un terme topographique. Et leur combinaison donne littéralement ravin du dos et désigne un élément anatomique, donc le creux du dos entre les omoplates. Le transfert sémantique est ici non plus égressif, mais ingressif, c'est-à-dire que c'est le sens géographique qui est transposé de son domaine initial vers le domaine anatomique. Comme l'indiquent les flèches dans ce tableau, tous les lexèmes composés désignant des parties du corps suivent ce processus et sont constitués par une expansion sémantique de termes qui dénotent primitivement des réalités géographiques. Ravin, puits, champ, cavité, corniche, colline, etc. Or, et c'est là finalement la chose qui importe pour notre propos, l'hypothèse que fait Louisa Stark, suite à ses enquêtes sémantiques, auprès des locuteurs du Quechua, elle a travaillé dans la région de Cusco, c'est que la conception de l'anatomie humaine de ces informateurs en termes de contraste entre concave et convexe, ou entre rond et creux, ou arrondi et creux, cette conception, elle serait fondée en dernière instance sur le modèle de la topographie et même de l'orographie, où les contrastes entre les objets creux et les objets arrondis existent en grand nombre, de façon ostensible et sur une échelle beaucoup plus grande que celle du corps. Autrement dit, ils verraient, ces informateurs, dans les montagnes qui les environnent, une foule de contrastes entre le creux et l'arrondi, et c'est ce système de motivation des contrastes qui fournirait le gabarit et linguistique et cognitif leur permettant de définir dans le corps des contrastes entre le concave et le convexe. Bref, dans les Andes, ce serait moins le corps qui sert de métaphore pour penser la montagne que l'inverse, à savoir ce serait les formes du relief et les mécanismes écologiques et de circulation de l'eau qui seraient les éléments fondamentaux permettant de conceptualiser l'anatomie et la physiologie des organismes. Alors, j'examinerai la semaine prochaine les conséquences de ce renversement sur les conceptions locales de ce que pourrait être le paysage dans les Andes, en m'attachant un peu plus aux conceptions de l'hydrologie telles qu'elles ont été développées à la fois dans la littérature orale, mais aussi dans l'architecture, telle que nous en avons encore de très nombreux témoignages.